Je vous remercie pour cette présentation. Je suis un peu frustrée parce que je trouve que vous êtes passé très vite dans votre historique sur la mise en place des zones d'éducation prioritaire dans les années 81 avec Alain Savary. Vous avez balayé également les années 90. Par contre, sur la relance de 2006, qui a mené quand même pas seulement une réduction d'effectifs dans les établissements, mais également un encadrement supplémentaire avec l'obligation des comités exécutifs, des coordonnateurs, un travail, à mon avis, plus approfondi sur l'établissement et sur le réseau d'établissements, d'une réflexion didactique donc dans la classe. Et je trouve tout cela, peut-être il n'y a pas encore suffisamment de sociologues qui se sont penchés sur la question, mais il me semble que sur cette politique territoriale depuis 2006, il y a dans les réseaux une modification de la prise en charge par les équipes enseignantes des élèves. Voilà, ça c'est un peu mon premier constat. Il n'y a pas vraiment de questions, disons. Est-ce que vous avez des équipes qui travaillent également sur l'évolution de l'éducation prioritaire de 2005 à la relance à maintenant?
Oui, bien sûr, j'avais prévu initialement de dire un tout petit peu quelque chose là-dessus, mais je me suis abstenue parce que, en fait, par manque de données, effectivement, parce qu'il y a pas des recherches encore qui étaient faites, et parce que moi-même, je ne me suis pas intéressée directement à cette question. J'ai suivi de loin les rapports, bien sûr, qui ont été faits, et un peu les mesures qui ont été prises sur le terrain. Il y a peut-être une chance pour concilier sur le terrain, à partir des dispositions qui ont été prises, une action qui soit à la fois territoriale avec des formes d'individuation qui soient plus efficaces. Je pense qu'il y a aussi le risque que, alors qu'il y ait des formes d'individualisation par le haut, si je peux dire, des élèves plus favorisés, il y ait en germe dans la nouvelle évolution des ZEP le risque de individualiser en se focalisant sur les élèves les plus en difficulté par une action très individuelle auprès des élèves qui pourraient se transformer dans des formes de relégation. Pour autant que j'ai pu discuter avec des acteurs de terrain et avoir quelques éléments d'information, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est quelque chose de répondu. Je pense que c'est un tout petit peu en germe, parce que dans ce que je disais, je ne voulais pas nécessairement opposer territoire et individu. Je pense que d'ailleurs dans les politiques, quand on examine les politiques au niveau international, on voit bien que les systèmes les plus efficaces combine une action de masse avec une action individuelle. Mais c'est justement le fait de que cette individualisation ne devienne pas soit d'extraction des bons qui les mettent hors du contact avec les autres élèves, soit d'individualisation des élèves en difficulté qui les stigmatisent et les mettent dans des filières de relégation et d'exclusion. Et pour autant que j'ai pu avoir quelques échanges sur la mise en place depuis effectivement 3 ans d'un certain nombre d'initiatives sur le terrain, il me semble qu'il y a aussi des formes d'individuation qui vont dans le sens de plutôt d'une stigmatisation des élèves. Mais en revanche, je crois effectivement que ce que vous dites est juste sur le fait qu'on est plus attentif aujourd'hui à réfléchir sur l'organisation à l'intérieur des établissements et qu'on a pris un tout petit peu la mesure du fait qu'on n'avait pas organisé le travail à l'intérieur et qu'aujourd'hui on réfléchit davantage à cette action-là. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi vrai pour l'école dans son environnement, mais peut-être faut-il déjà l'organiser à l'intérieur pour qu'elle puisse s'ouvrir à l'extérieur.
Pour essayer de limiter les stratégies de contournement des familles. Et il y a des indicateurs de du ministère qui montrent qu'il y a eu davantage d'implantations de classes de sections européennes, de sections bilingues sur les établissements, les réseaux, ouais, ambition réussite ou réseau de réussite scolaire. De même, sur les contournements de cartes à travers les dérogations scolaires, on s'aperçoit que finalement la fuite qu'on attendait, elle a été contenue justement parce qu'on a mis en place des critères, même si il y a des boursiers de bons élèves boursiers qui partent, globalement, ça n'a pas été une fuite des cerveaux vers l'ailleurs.
Non, bien sûr, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans la fuite, mais dans mon dernier livre dont je vous parlais sur choisir son école, je reste quand même assez préoccupée par justement cette implantation de ces filières dans les établissements défavorisés, parce que j'ai étudié ce phénomène, en tout cas en région parisienne, je suis toujours prudente parce que les territoires sont très différents et je le sais bien, en région parisienne, et parmi les stratégies des choix, quand j'ai travaillé sur les choix de l'école, j'ai travaillé sur 4 stratégies des choix, les 2 auxquelles on pense le plus habituellement, c'est-à-dire choix du privé ou choix d'un autre établissement public, mais également les choix résidentiels, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui prennent une place très importante, mais aussi ce que j'avais déjà étudié dans mon livre « L'école de la périphérie », ce que j'appelle la colonisation des établissements du secteur. C'est-à-dire que ce que j'ai pu observer dans un certain nombre de collèges, c'est qu'effectivement l'existence de ces options, qu'elles soient officielles ou qu'elles prennent des formes un peu plus officieuses, permettent de retenir une fraction des classes moyennes, notamment les classes moyennes du secteur public qui tendent à résider dans ces secteurs, parce que les classes moyennes plus favorisées, les classes moyennes supérieures du privé, déjà n'habitent pas dans ces secteurs-là, ne cohabitent pas avec les classes populaires, mais souvent au prix d'une ségrégation interne assez forte dans les établissements. Moi, j'ai travaillé dans des établissements, dans les cas extrêmes, mais j'en ai rencontré 2 dans lesquels les principaux de collège avaient dû faire des services de déjeuner différents pour les élèves de la classe CHAM et les autres, parce que les tensions étaient très fortes et que ces élèves étaient appelés les Français, les Blancs, les Bons, etc. Donc, malgré tout, les résultats des enquêtes nous montrent qu'en France, parce que l'établissement n'est pas une entité très construite, l'essentiel de ce qui est important se passe dans la classe. Si on maintient une hétérogénéité dans l'établissement au prix d'une très forte ségrégation entre les classes, on n'améliore pas systématiquement la réussite des élèves. On peut plaider cet objectif, comme on a pu le faire en France, pour maintenir une intégration au niveau de l'établissement. Ça peut être générateur, comme le disent certains travaux, notamment une partie des travaux d'Éric Desbarbieux, je l'avais trouvé aussi un peu dans mes enquêtes, des tensions entre les élèves que je viens d'évoquer, donc des phénomènes de violence. Et surtout, si les élèves après sont regroupés par niveau entre les classes, c'est pas nécessairement en soi un élément qui va aller dans le sens de la progression des élèves moyens et des élèves moyens faibles. Après, c'est comment c'est mis en place. Il y a classe de niveau et classe de niveau. Est-ce que c'est par degré? Voilà. Après, j'ai vu des situations très variées. Mais en tout cas, dans mon livre, j'ai cherché beaucoup à attirer l'attention sur le fait qu'il y a une quatrième stratégie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les méchants qui partent et les gentils qui restent. Il faut s'intéresser à ce qu'ils font ceux qui restent. Et ceux qui restent font parfois des choses très vertueuses. J'ai travaillé sur certains collèges où les parents des classes moyennes qui restent s'investissaient beaucoup dans le collège pour l'améliorer, faisaient du soutien scolaire, trouvaient des moyens, etc. Et je trouvais aussi beaucoup de collèges où ces parents plaident beaucoup pour que leurs enfants soient tous regroupés dans les mêmes classes, fassent des petits parcours protégés. Et cela n'est pas au bénéfice des autres élèves. Cela protège probablement la scolarité de leurs enfants suffisamment pour leur permettre de poursuivre par la suite un parcours honorable en système scolaire, mais ce n'est pas au bénéfice des autres enfants. Donc je crois que c'est une stratégie sur laquelle il faut réfléchir sur la façon dont on la met en place.
Oui, moi je voudrais revenir sur le contexte actuel justement d'approche par l'individu. Que ce soit les expériences donc, de Polytechnique ou des classes préparatoires ou ce qu'on appelle maintenant les internats d'excellence, hein, où on veut mettre au vert des enfants qu'ils mériteraient, il me semble que le point d'achoppement quand même de cette approche, c'est que on dit, mais sans le dire aux autres, que s'ils ne sont pas dans le cas des quelques sélectionnés, c'est de leur responsabilité. Et ça me semble très dommageable quand même, parce qu'on fait porter la responsabilité de leur, entre guillemets, échec aux élèves seulement, voire à leur famille. Mais le système en lui-même, il n'est pas touché. Moi, ça me semble, enfin, un des dommages collatéraux peut-être, et peut-être bien aussi pensé, de cette politique d'approche par l'individu. Voilà, c'est tout. Sauf une petite chose, mais c'est peut-être anecdotique. Hein. Par rapport justement aux boursiers qui quittent leur collège d'origine, l'expérience que j'en ai en tout cas chez nous, c'est que ceux qui sont pas allés dans les collèges de la périphérie, mais qui sont allés dans le collège centre-ville étiqueté, qui est d'ailleurs collège, lycée et classe préparatoire, ça a été un choc des cultures. Un choc des cultures des élèves qui sont allés dans ce collège-là, mais des familles aussi. Du coup, avant Noël, tous les élèves boursiers étaient passés en conseil de discipline. Et où est-ce qu'ils sont retournés ? Dans le collège d'origine. Parce que d'une part, eux se sont pas retrouvés, les 6 ou 7, là dans cette ambiance de collège de centre-ville, mais les enseignants, y compris du collège, n'étaient pas préparés du tout à recevoir ces élèves-là. Et c'est quand même un gros problème aussi de cette politique d'ouverture et de promotion, entre guillemets, toujours au mérite. C'est-à-dire que faut que ce soit pensé. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les classes préparatoires, elles n'ont pas fait que dire « c'est la faute des lycées ». Elles ont mis en place des dispositifs. Dans l'assouplissement de la carte scolaire, on a demandé l'avis à personne et on n'a préparé personne à l'assouplissement de la carte scolaire. Donc, il me semble que là-dessus, il y a à travailler.
Oui, tout à fait. Je pense que vous avez pleinement raison sur les deux aspects. Le premier aspect, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est quelque chose que j'ai étudié. Je suis allée un peu vite parce que j'ai l'impression d'avoir passé beaucoup de temps dans la première partie. J'aurais dû laisser peut-être plus de temps à la deuxième partie sur l'individualisation. Effectivement, c'est une question à laquelle je me suis intéressée. C'est que, effectivement, ces processus d'individuation mettent tout l'accent sur les élèves, et notamment un thème auquel je me suis beaucoup intéressée, c'est ce nouveau vocabulaire de l'autocensure. Comme vous savez, c'est politique, c'est un thème qui est devenu très populaire. Maintenant, tous les textes officiels nous parlent de l'autocensure des élèves de banlieue, etc. On sait bien que ce phénomène existe, bien évidemment. On sait bien que un certain nombre de manques d'informations, d'incorporation de tous les obstacles, etc., font que les ambitions vont être moins élevées. Mais ce n'est qu'un petit aspect de la question par rapport à des problèmes qui sont de toute autre nature et qui posent aussi, bien sûr, le problème du fonctionnement des établissements, des critères de sélection, de la formation qui est donnée aux élèves. Mais effectivement, un autre effet des déplacements vers l'individualisation, c'est trouver dans l'individu à la fois le versant positif, parce qu'on parle des potentialités, donc ça c'est aussi un terme qui est devenu très fort, avec notamment aussi l'entrée des entreprises. Donc maintenant on a les élèves à potentiel et les autres, et ces vocabulaires de l'autocensure, ces vocabulaires du coaching, tout cet aspect qui, effectivement, tout l'accent est mis sur l'individu. Alors, d'une certaine façon, ça fait aussi le lien avec ce que vous avez dit dans la deuxième partie de votre question, c'est que ce que les grandes écoles et les filières d'élite ont pour elles, c'est que bon, elles travaillent sur des publics très réduits, mais avec des moyens conséquents et avec une habitude de travailler sur un mode qui n'est pas du tout bureaucratique, mais qui est sur le fait de gérer des situations de façon suffisamment flexible. Et donc, effectivement, dans beaucoup de cas, c'est pas tout à fait le cas à Sciences Po, parce que d'une certaine façon, les élèves qui arrivent dans l'institution, on leur donne un tout petit peu de tutorat. Ce n'est que depuis l'année dernière qu'on leur donne des choses un peu plus dures, mais souvent on les laisse un peu nager dans l'établissement malgré tout. Mais on les accompagne beaucoup avec ce coaching personnalisé, par exemple dans le programme ESSEC, pendant 3 ans, c'est trois heures de tutorat par semaine avec les élèves, etc. Alors qu'effectivement, dans l'éducation nationale, il n'y a pas, comme je le disais, il n'y a pas d'effort de prospective pour faire émerger les boursiers. Il n'y a pas du tout une politique proactive et on ne s'occupe pas du tout de ce qu'ils deviennent. Quand j'ai présenté mon enquête aux deux inspecteurs d'académie où je travaille, ils m'ont dit « Ah, mais c'est très bien, comme ça on aura quelques informations sur ce qu'ils deviennent dans les établissements, etc. » Parce que manifestement, ils n'ont aucune information et ne cherchent à collecter aucune information sur l'impact que ça a, soit individuellement pour les élèves, soit pour les établissements en question, le changement de public. J'étais très sensibilisée à cette problématique que vous évoquez, déjà dans mes premières enquêtes dans l'école et la périphérie, parce qu'on avait effectivement constaté à quel point c'est un pari risqué pour les familles, notamment des milieux populaires, de scolariser leurs enfants dans des établissements des niveaux supérieurs. notamment par rapport à ce qu'on sait sur le fonctionnement des établissements. Vous savez, pour le dire vite, il y a des fortes variations des notations entre les établissements. Plus un établissement est favorisé, plus on note de façon sévère. Plus un établissement est défavorisé, plus on note de façon indulgente. L'inverse est en vrai en matière d'orientation. Plus on est dans un établissement favorisé, plus les orientations sont généreuses. Et dans l'établissement défavorisé, la notation est indulgente et l'orientation est sévère. Les deux systèmes se compensant l'un à l'autre. Mais ce qui fait que, bien sûr, les élèves des milieux populaires qui bougent d'un établissement à l'autre sont confrontés à un très fort décalage au niveau de la notation, qui fait que même parfois ils étaient les meilleurs de leur classe dans leur établissement d'origine et se retrouvent parmi les derniers s'ils vont dans un établissement très défavorisé. À quoi se rajoutent souvent des formes de stigmatisation sociale. Moi, j'avais travaillé sur des élèves du sud de la banlieue sud de Paris qui venaient à Paris et qu'on appelait toujours les banlieusards parce qu'ils s'habillaient différemment, parlaient différemment, arrivaient en retard par les transports en commun, donc les enseignants les stigmatisaient parce qu'ils étaient toujours en retard. Donc, effectivement, c'est un coup. Et moi, j'avais rencontré des familles dans le cadre de cette enquête qui, effectivement, ça n'avait pas été aussi dramatique que ce que vous décrivez, mais qui avaient dit on avait fait ce choix pour les aînés, mais après, pour les autres, pour les plus jeunes dans la famille, on n'a pas voulu faire ça parce qu'on a trouvé que c'était trop dur, que nos enfants avaient trop souffert, que c'était trop pénible, etc. Donc, effectivement, ce n'est pas un calcul facile, ces déplacements entre établissements, parce qu'on sait que, et c'est un des problèmes des ZEP, que les enseignants se sont adaptés à leur public, qu'il y a cette notation plus indulgente que j'avais étudiée aussi dans mon travail, ça fait qu'il n'est pas si, ce n'est pas si facile de naviguer entre les établissements, et que, quand je décrivais tout à l'heure le travail des tuteurs, etc., dont le fait de essayer de traîner des élèves des milieux défavorisés vers les établissements d'élite s'applique très fortement. Nous avons vu des choses d'une brutalité inouïe par rapport à ce que Bourdieu appelait la violence symbolique. C'est-à-dire, c'est vraiment des formes très très fortes de violence vis-à-vis de ces élèves pour leur dire « Vous ne pouvez pas être comme vous êtes, il faut vous arracher et devenir autre chose que ce que vous êtes si vous voulez être dans ces établissements. » Et comme ce sont des jeunes qui le font sans aucune formation pour beaucoup de ces tuteurs, ça peut être d'une brutalité extrême dans la façon dont on disqualifie la façon de parler, de s'habiller, de s'exprimer, d'être. Tout simplement. Donc oui, c'est des choses qui sont importantes, pour lesquelles il est très important de voir comment ça se passe dans la réalité. C'est loin d'être aussi merveilleux qu'on le décrit de l'extérieur.
Bonjour. C'est peut-être un effet de décalage horaire, mais je trouve qu'il y a une charge ironique à ce que vous racontez, qui est là, peut-être que je l'invente, je le suggère. Dans les années 70, on signalait souvent que l'école était au service des classes dominantes et qu'un de ses objectifs était de faire en sorte que les meilleurs élèves des régions s'appauvrissant atterrissent en ville ou atterrissent dans les meilleurs quartiers et que les quartiers pauvres nourrissent aussi par leurs élites les quartiers plus riches ou s'enrichissant et tout ça. Et on disait que les politiques compensatoires étaient là essentiellement pour masquer cette réalité-là, qu'elle était... l'école ne voulait pas être mal perçue, alors un peu de politique compensatoire aidait à donner bonne presse à l'école. Et là, si je vous écoute, il semble que les politiques compensatoires, comme les ZEP, essaient de travailler pour effectivement faire en sorte que les individus des quartiers pauvres aillent encore davantage dans les zones riches. Fait qu'il y a comme une inversion de ce qu'ils étaient supposés être. On était supposés à l'époque, on voyait les politiques compensatoires comme aidant les milieux à se structurer, permettant de construire des élites qui allaient demeurer locales, qui allaient créer des forces, on allait regrouper des ressources. Et là, on me dit que, à l'intérieur de la politique compensatoire française, ben, il y a déjà un truc qui fait en sorte, non, on va s'assurer d'envoyer les meilleurs élèves dans les filières pour aller plus tard dans les quartiers riches, dans les villes riches. Ce qui m'amène un peu à l'exemple américain. On a effectivement constitué une minorité noire extrêmement cultivée, extrêmement instruite, qu'on retrouve à PBS, qu'on trouve autour de Mama et tout ça. Mais en même temps, en réalité, dans l'ensemble de la population noire, les écoles vont encore plus mal qu'avant, où il y a très très peu de progrès pour la masse des élèves noirs qu'on rencontre. Et là, je me demande si on n'observera pas à terme pareil type de résultats en France.
Oui, je pense que c'est tout à fait le sens de mon intervention. Je pense qu'on a eu une forme de parenthèse entre effectivement les années, la fin des années 70, bon disons le début des années 80 avec les ZEP, mais ça a commencé dès la fin des années 70 en France. Pendant les années 80-90, on a essayé d'appliquer ces politiques des masses, c'est avec l'idée qu'on allait effectivement lutter contre les inégalités, que la lutte contre les inégalités avait un sens, qu'on allait se donner des outils, etc. Et que petit à petit, c'est ce que j'ai essayé de montrer, le sentiment croissant qu'on ne pouvait pas lutter contre les inégalités, et qu'en fait, même les politiques qu'on avait mis en place des luttes n'avaient fait qu'accentuer la relégation des territoires, on est revenu effectivement à une politique d'égalité des chances qui n'est pas tout à fait la même que dans la période avant la Deuxième Guerre mondiale. On est dans une politique d'égalité des chances qui a quand même intériorisé l'idée qu'il faut des formes de discrimination positive, mais très ponctuelles, dirigées à certaines catégories d'individus, avec l'idée effectivement de faire émerger une élite. Et je dirais que de ce point de vue, l'introduction de la problématique de la diversité et des enfants d'immigrés, qui rapproche bien sûr beaucoup de l'exemple américain, est très forte. Parce que les élites issues de l'immigration sont très fortement en train de plaider dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens d'une représentativité de ces groupes qui est un objectif politique plus que ce n'est un objectif social, c'est-à-dire c'est un objectif de faire émerger certaines élites issues de l'immigration, mais qui devient de fait concurrent avec la politique de lutte contre les inégalités. Ça pourrait ne pas l'être. On peut imaginer que les deux politiques soient menées parallèlement. Mais comme vous le dites, c'est un tout petit peu comme dans le modèle américain. On voit bien que le fait de vouloir plaider que les politiques en faveur des élites, c'est un moteur pour la lutte contre les inégalités, peut s'avérer totalement faux. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une politique efficace pour faire émerger des élites, et je pense que si on laissait les écoles faire, on arriverait à une politique assez efficace, on va faire émerger des élites issues de l'immigration, des territoires, etc., sans pour autant améliorer la situation de la masse, et même en la dégradant dans la mesure où l'attention se focalise, et les moyens se concentrent moins vers ces catégories-là. Et c'était le sens vraiment de mon intervention, c'était de plaider pour qu'une politique ne remplace pas l'autre, non pas pour disqualifier nécessairement la première, parce qu'elle peut avoir quelques vertus, mais elle ne peut pas tenir lieu de politique de lutte contre les inégalités. Il faut arrêter de dire que ça va créer un effet de contamination, et que parce qu'on prend 3 élèves dans un lycée, tous les autres vont se mettre à bien travailler, et ce lycée va devenir vertueux, et le lycée d'à côté va devenir vertueux, il y a une sorte de chaîne vertueuse qui va se développer. Je ne crois absolument pas, et toutes les enquêtes qu'on a aux États-Unis, dans les pays, montre que ça ne marche pas. Il peut y avoir quelques petits effets vertueux, des micro-contaminations positives, mais c'est extrêmement minoritaire. Ça ne peut pas tenir lieu de politiques de lutte contre les inégalités. C'est deux choses différentes. Les politiques pour faire émerger une élite sont par définition des politiques élitistes. Elles se concentrent sur quelques individus. Ça ne peut pas être une action de masse pour lutter contre les inégalités.
Je voudrais vous faire part de deux réflexions et puis une question. Il me semble qu'on assiste actuellement, depuis quelques années, à un transfert entre l'interdiction du redoublement, couplé à une explosion des dispositifs d'accompagnement. Et dans ce que vous nous dites là, c'est l'extraction de la tête de classe vers ailleurs, hein. Donc il y a à la fois ces trois choses qui sont combinées, c'est-à-dire que on interdit le redoublement, on développe l'hétérogénéité qui est travaillée, dont on pense qu'elle pourrait être travaillée à travers les dispositifs, mais qui sont quand même, dont les élèves restent en classe aussi. Il y a cette concomitance, et en même temps, on retire la tête de classe. Donc ça, c'est un premier point qui me semble constituer de nouvelles difficultés pour le métier, puisqu'on est là sur travailler en éducation prioritaire, et on est la plupart à tenter d'accompagner ou de former ou de conseiller les collègues qui travaillent dans l'éducation prioritaire. Donc ça me semble être une difficulté qui est à la fois pédagogique, mais aussi structurelle et de gestion de flux. La deuxième remarque, elle est liée à un élément d'actualité, c'est la dissociation. C'est un courrier du DGESCO qui est assez récent. La dissociation entre le label et la prime. Je sais pas si vous...
Non, dites-moi précisément. Pas...
Alors, jusqu'à maintenant, dans la règle générale, les enseignants qui avaient la prime, c'était ceux qui travaillaient dans les secteurs labellisés éducation prioritaire. D'accord. Et il y avait une sorte d'automaticité. Si on travaillait dans ces secteurs labellisés, on avait la prime. Le nouveau courrier, là, dissocie le label de la prime. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des enseignants qui obtiennent la prime hors du label. D'accord. Et des personnes qui restent labellisées sans avoir la prime.
Et les conditions pour avoir la prime, alors, c'est...
Voilà la suite de ma question. Merci d'avoir anticipé. Ça me fait penser à ce que vous avez dit sur la dilution du territoire. Hein, parce que on avait, un territoire qui était, du point de vue des enseignants, à la fois défini par une zone, un secteur, mais aussi par l'engagement dans un établissement ou dans un travail qui était compensé par une prime. Je reviens pas sur ce que vous avez dit, mais il y avait cette concomitance. Là, il risque d'y avoir cette distinction. Et donc, je me demandais si, dans cette dilution du territoire, il n'y avait pas une forme d'individualisation des enseignants dans le travail à mener. Et ces deux remarques de la difficulté nouvelle des gestions de flux d'élèves et de cette dilution de l'aspect presque... Enfin, vous avez dit, on était rentré dans une dynamique de projet, d'établissement ou de territoire, hein, puisqu'il y avait des projets de ZEP, donc de secteurs. Là, on voit que même cette dynamique de projet va être renvoyée à l'individu. Donc voilà, la question que je me pose, c'est est-ce que de ces deux constats, vous en tirez des commentaires? Et qu'est-ce que ça peut nous renvoyer, nous, en tant qu'accompagnateurs et formateurs, des personnels qui y travaillent? L'UCRIA suggérait ce matin, vu la déchéance des IUFM, d'aller vers des formations plus d'établissements et essayer de faire tourner les formations au sein des établissements. Est-ce que c'est une perspective qui... Voilà, comment ça joue dans cet environnement, quoi?
Alors, pour venir à la première question, qui est effectivement tout à fait importante, de l'hétérogénéité, je me suis beaucoup intéressée à cette question parce que, autour du terme de la mixité, parce que je trouve que, bon, à partir, notamment les politiques urbaines ont beaucoup popularisé ce terme de la mixité, mais qui, un tout petit peu comme le territoire, et sans le définir de façon claire, devient problématique. Ce que je veux dire, c'est que petit à petit, la mixité est devenue un objectif arithmétique en France. Donc, il faut qu'il y ait de l'hétérogénéité, il faut qu'il y ait la mixité, mais on ne travaille pas sur qu'est-ce qu'on fait de l'hétérogénéité, à quoi sert l'hétérogénéité. C'est encore plus vrai de tout ce qui n'est pas pédagogique, parce que on fait comme si d'emblée le fait de mettre des enfants des différentes nationalités, le fait de mettre des enfants des classes moyennes et des classes populaires, ça allait de soi. Et on sait très bien que, par exemple, on sait très bien que si on met des enfants de différentes minorités ensemble, si on ne fait pas un travail, dans beaucoup de contextes, on renforce le racisme plutôt qu'on ne le diminue. Donc la mixité, elle n'est pas une vertu en soi. La mixité et citoyenneté, la mixité peut être un support d'une citoyenneté moderne dans nos sociétés d'aujourd'hui, mais c'est pas automatique, c'est pas parce qu'on les met ensemble dans la classe. Et jamais il y a un travail en profondeur pour dire qu'apporte cette mixité sur le plan social global et comment on va construire ces objectifs-là. Je pense que les chercheurs, ils ont une part de responsabilité, parce que moi-même, je suis souvent très à court quand les gens me demandent, mais il y a tellement de problèmes pour que les enfants aillent dans les écoles du quartier, pourquoi est-ce qu'on les laisserait là? Moi, j'ai des convictions, y compris des convictions des parents, que les enfants acquièrent des choses au contact avec des autres qui peuvent être très positifs, mais il n'y a pas beaucoup de recherches qui nous montrent que le sentiment d'insécurité est lié au fait d'être ségrégué ou que... Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas travaillé la mixité comme un objectif social qu'il faut construire avec des outils, qui a des éléments positifs et qui est un moteur de la société. On se contente de dire, c'est bien qu'ils soient ensemble. Sur le plan pédagogique, c'est un tout petit peu moins vrai, mais malgré tout, effectivement, on a une réflexion qui est très pauvre sur l'hétérogénéité, puisque on sait bien, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, il y a hétérogénéité, hétérogénéité. On sait très bien que si on met les très forts et les très faibles ensemble, par exemple en termes scolaires, on peut produire des choses explosives, notamment si on met un système d'évaluation qui reste inchangé. Aux États-Unis, on a fait beaucoup d'enquêtes de ce type quand on a mis en place les politiques de déségrégation raciale. On mettait des enfants noirs avec du bossing dans des écoles blanches élitistes, on gardait le même système d'évaluation, et qu'est-ce qu'on voyait, c'est que tous les enfants noirs demandaient à partir, pour revenir à la question qui est évoquée tout à l'heure, en courant, parce qu'ils se sentaient totalement dévalorisés dans ces classes, et ils réussissaient pas bien du tout. Donc l'hétérogénéité modérée, associée à des pratiques enseignantes efficaces pour gérer des groupes hétérogènes, sont associées à des meilleures performances des élèves. Mais toutes ces conditions, il faut qu'elles soient réunies. Il faut qu'il y ait des bons élèves. Donc, on revient à la question que vous avez posée. Si on enlève toutes les têtes des classes, bon, si c'est l'hétérogénéité, c'est des très, très moyens avec des très, très faibles. Est-ce que c'est une hétérogénéité très productive? Comment crée-t-on les conditions pour faire travailler l'hétérogénéité? Quelle formation on donne aux enseignants pour gérer l'hétérogénéité dans les classes, pour qu'ils voient l'hétérogénéité comme une richesse et non pas comme un obstacle pédagogique dans leur action, etc. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un énorme travail à faire sur la façon de concevoir l'hétérogénéité, la mixité, non seulement comme un objectif qui est donné comme une sorte d'injonction, travailler dans l'hétérogénéité, parce que ce qui se passe, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, les acteurs ont été dessaisis de leurs principaux outils qu'ils avaient autrefois pour gérer l'hétérogénéité, c'est-à-dire, c'était d'abord l'orientation, donc on éjectait les élèves assez tôt, puis c'était le redoublement, donc on faisait redoubler les élèves, et donc on leur a donné des nouveaux outils en termes de dispositifs, qui peuvent être utilisés parfois, comme je l'ai dit, comme des dispositifs de relégation, mais on les laisse quand même beaucoup livrés à eux-mêmes sur, voilà, maintenant vous avez ces classes-là, vous faites avec, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous êtes. Pour moi, il est indispensable que l'on examine effectivement quelle est l'hétérogénéité qu'on a dans les établissements pour savoir comment on peut faire des projets qui soient viables. Si je reviens à la deuxième question, donc là, je n'étais pas tout à fait au courant de ces nouvelles dispositions. Et je ne sais pas trop, d'une certaine façon, comment les lire. On peut les lire comme une prise de, disons, de dire bah, tous les enseignants ne faisaient pas ce travail, c'est-à-dire n'est pas accordé des primes de façon automatique, ce qui devient bon, aujourd'hui un discours qu'on entend de plus en plus dans l'administration. Il faudrait pas donner la prime d'orientation à tous les enseignants avant de s'assurer qu'ils font vraiment de l'orientation. Il faut pas donner peut-être la prime ZEP à tous les enseignants des ZEP, etc. Donc est-ce que c'est un instrument plutôt pour mesurer le mérite individuel, d'une certaine façon, des enseignants qui seraient justifiés dans ces termes, ou est-ce que c'est effectivement l'attacher beaucoup plus à une action individuelle? Mais en tout cas, et ce qui me paraît profondément problématique, c'est que il est difficile d'imaginer que l'action isolée d'un enseignant puisse avoir une efficacité unique sur toute la scolarité d'un élève. À supposer même que cet enseignant soit particulièrement efficace, il le sera, par exemple, si on est au niveau de l'école primaire, il le sera peut-être pendant l'année où il a cet enfant, mais après cet enfant, il va avoir d'autres enseignants, etc. Donc, tous les gains associés à la fréquentation de cet enseignant seront perdus. Donc, moi, personnellement, je plaide beaucoup pour quelque chose qui reste attaché à une action de masse sur le territoire, mais une action qui puisse aussi ne pas être aveugle. Parce que si le territoire et quand même son image s'est dégradée, c'est aussi parce qu'on n'a pas évalué tout ce qui ne fonctionnait pas dans le territoire. Donc on ne peut pas, à mon avis, simplement continuer, par exemple, à donner des primes sans s'assurer qu'on fait des actions dans les établissements, pour autant que la prime soit considérée comme un élément très important dans le changement. Mais en tout cas, regardez de près ce qui se fait. Moi, je suis, en tant qu'observateur des politiques éducatives, je ne cesse de dire ça à tous les responsables politiques à tous les niveaux, c'est que, en fait, le gros problème, c'est qu'on ne voit pas ce que deviennent les politiques sur les terrains. Moi, je suis toujours extrêmement étonnée de la méconnaissance profonde, mais même des acteurs les plus proches du terrain, comme peuvent l'être les inspecteurs d'académie, et plus on remonte, plus c'est éloigné, par rapport à la façon dont sont mises en œuvre ces politiques et les effets pervers au quotidien que ça produit. Alors que, même en termes d'économie des coûts, ça représenterait des économies tout à fait intéressantes de voir qu'il y a vraiment des dispositifs qui servent à rien parce que ils ne sont pas appliqués de façon efficace, parce qu'ils sont des tas d'effets pervers, parce que les acteurs ne comprennent pas comment les utiliser, et parce qu'ils ne sont pas accompagnés, formés, aidés pour le faire. Et donc, je pense que plus que des changements de politique, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est aller vraiment sur le terrain accompagner les politiques. C'est des politiques très coûteuses, parce que ça suppose beaucoup de ressources humaines qui coûtent cher. Mais je pense qu'on aurait pu faire l'économie des tas de dispositifs qu'on a mis en place et de leur empilement sur le terrain au fil des années, à la faveur des personnels plus permanents, plus attachés et plus en lien avec certains établissements qui sachent suivre dans la durée le devenir de certains établissements. Ça, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de secret. Les politiques efficaces, c'est des politiques de gestion des ressources humaines qui passent par la formation, l'accompagnement, le suivi, plus que par le fait de déverser des moyens sur les établissements dont ils ne savent parfois trop quoi en faire, sans organisation de ces moyens, etc.
Oui, moi je voudrais, je reviens un petit peu à votre intervention tout à l'heure.
Je vous en prie.
Bon, d'abord je voudrais dire qu'en tant qu'acteur de terrain, c'est une intervention qui pour moi était un peu difficile à entendre à plusieurs points de vue. D'un point de vue d'abord du regard, je dirais globalement négatif sur l'ensemble des politiques, c'est vrai que nous on a né dans le guidon tous les jours pour essayer de travailler avec tous les partenaires, etc. Et qu'on, voilà, dans des micro-regards, on a des regards heureusement plus positifs, sinon ça serait difficile, je pense, d'avancer. Mais bon, j'y reviendrai. Et puis également difficile d'entendre un point de vue déontologique sur la deuxième partie. Bon, j'ai compris dans vos interventions après que c'était pas forcément vos points de vue, mais quand, par exemple, vous dites qu'il est naturel chez un enseignant d'avoir envie d'aider les élèves les meilleurs et d'être valorisé par le fait de les sélectionner, personnellement, moi, mes valeurs ne sont pas du tout de ce côté, donc je suis valorisée quand des élèves très en difficulté sont mobilisés à travers des projets culturels, par exemple, même si ça n'amène pas des meilleurs résultats aux évaluations, et je ne serais pas du tout valorisée de participer à des sélections. Voilà, je ne sais pas ce que c'est que le naturel d'un enseignant. Moi, je veux plutôt les valeurs professionnelles. Et ma valeur professionnelle première, c'est de m'occuper de tout le monde. Donc voilà, j'entends bien qu'il y a des pratiques professionnelles que vous avez observées dans ce sens, mais ça me heurte un petit peu. Je voudrais revenir plutôt à deux questions par rapport aux études que vous avez présentées. Et est-ce que vous avez connaissance d'autres études également? Premièrement, donc sur le fait de constater le faible impact des politiques d'éducation prioritaire sur le plan pédagogique. Alors, j'entends tout à fait les constats qui sont faits. Par contre, dans le milieu enseignant, ce qui se dit, ce qui se constate en termes de comme ça bruit de couloir, c'est que, j'irais, c'est encore pire ailleurs. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une machine très immobile, dans laquelle l'innovation pédagogique, le dynamisme, le travail en équipe, ça s'apprend en éducation prioritaire. Et beaucoup de gens, même s'ils font du turnover, disent que pendant toute leur carrière ensuite, ils se sont appuyés sur ce qu'ils ont appris dans ces années-là en éducation prioritaire. Donc je voulais savoir s'il y a des études comparatives par rapport aux pratiques pédagogiques. Quand on voit que les choses bougent peu, comme vous l'avez constaté en éducation prioritaire, comment bougent-elles ailleurs et comment les pratiques évoluent? Puis c'est vrai que ce matin, on a eu un chercheur qui a plutôt plaidé dans le sens d'observer des évolutions des pratiques. Donc voilà, je m'interrogeais là-dessus. Et une autre question sur les études, ça rejoint ce que vous avez dit à la fin sur la mixité sociale. Je voulais savoir s'il y a des études qui regardent ce qui se passe quand il y a les rares zones d'éducation prioritaire, enfin territoires, en France qui sont des territoires de mixité sociale, c'est-à-dire les territoires RRS de centre-ville. Personnellement, je travaille dans un territoire comme ça, donc à Lyon, en centre-ville. Il y a également des territoires comme ça à Paris, à Marseille, dans plusieurs grandes villes, où il y a donc des quartiers avec des populations anciennement populaires et puis des couches moyennes et des classes aisées qui sont arrivées. Et on est dans un vrai laboratoire, à mon avis, de mixité sociale, dans lequel l'éducation prioritaire a permis de déghettoiser les établissements, d'arrêter la fuite des classes moyennes vers les établissements privés et de faire véritablement des lieux, des établissements de mixité sociale. Et je crois vraiment que c'est grâce aux moyens supplémentaires d'éducation prioritaire, grâce aux projets dynamiques, grâce au travail de territoire et au travail de partenariat, que vous, bon, tout ce que vous avez expliqué qui se faisait très mal, qu'on essaie de faire le mieux possible. Demain, lorsque nous ne serons plus en éducation prioritaire, parce que dès que les statistiques sociales montreront qu'on n'en a plus besoin, on sortira. Personnellement, nous, on craint beaucoup la re-ghettoisation parce que l'école privée, elle est à 100 mètres et que ça va vraiment très vite pour les familles de s'en aller. Voilà.
Alors, je reviens effectivement sur la première partie. Il est effectivement toujours problématique de parler de façon générale puisqu'on est obligé de ne pas se focaliser sur des situations que j'ai pu observer moi-même, puisque j'avais écrit il y a quelques années un ouvrage qui était aussi sur quand l'école se mobilise. Donc on avait observé plutôt des territoires où ça se passait très bien. Donc j'ai heureusement eu l'expérience aussi dans mes enquêtes de rencontrer ce type de territoires. Mais d'une part, le travail des sociologues est plutôt de se focaliser sur ce qui ne marche pas. et d'autre part, malheureusement, de façon générale, mais pour moi, c'est, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, mais peut-être je l'ai dit trop vite, je n'ai pas voulu mettre en cause la politique des ZEP, parce que je ne sais même pas si on peut parler en termes de politique des ZEP, parce qu'il y a une telle variabilité des pratiques et des actions qu'on a mises en place. C'est plutôt l'image négative qui a été associée à ces politiques, sans que l'on sache dans quelle mesure, et j'ai dit à quel point il y a peu d'études, peu d'évaluations et peu des travaux des chercheurs aussi, qui nous permettent de dire avec certitude est-ce que ça n'aurait été pas mille fois pire sans les ZEP, comment mesurer l'effet de la dégradation, l'énorme variation d'une zone à l'autre, etc. Donc effectivement, quand j'écris, j'essaye d'être assez prudente pour ne pas participer moi-même des sortes de discours de la mise en cause définitive, mais plutôt de dire que les nouvelles politiques se nourrissent d'une image sociale et politique qui s'est généralisée sur l'échec, mais dont on n'est pas sûr de quelles sont les causes de cet échec, quelle est son ampleur, qu'est-ce que ça aurait pu être autrement, comment, etc. Donc je crois qu'il faut être prudent par rapport à ça. Par rapport à ce que je disais sur les enseignants, les enseignants que je rencontre sont pas nécessairement des enseignants cyniques quand je disais qu'ils s'orientent vers ces élèves, c'est-à-dire ce sont aussi des élèves défavorisés. Mais dire qu'il est souvent naturel quand on est dans des classes dans lesquelles on a l'impression qu'on a tellement de mal à progresser, que convient une action politique qui dit mais on peut se focaliser sur quelques élèves pour lesquels on est sûr et pour lesquels finalement le résultat va être assez visible et immédiat, c'est-à-dire que quand on intègre Sciences Po, c'est au bout de l'année, on sait quel élève a intégré, il y a tout un ensemble de choses qui sont associées, il est compréhensible que les acteurs veuillent se couler dans cette optique-là. Je le disais pas pour nécessairement les dire que c'était des mauvais professionnels. C'est de dire que quand on travaille, il est normal de se tourner vers des actions vers lesquelles on sent qu'il va y avoir une réussite, qu'il y a un objectif qui est assez clair. Dans beaucoup d'établissements de la périphérie, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que comme dans le modèle français, il n'y a que l'excellence qui reste comme un critère clair de réussite, tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'excellence est souvent dévalorisé. Donc quand on arrive à faire émerger un excellent, moi, j'ai rencontré je ne sais pas combien des principaux de collège dans mes enquêtes qui à chaque fois me décrivent des situations catastrophiques, etc. Puis après, à la fin de l'entretien, me disent, mais quand même, il y a deux élèves l'année dernière qui sont allés à Louis-les-Grands, c'est extraordinaire. Et à chaque fois, moi, ça me désole profondément, mais je le comprends parce que le modèle étant tourné vers l'excellence, on s'est dit, on a sauvé deux, même s'il y a tout le reste de l'établissement, etc. Je ne voudrais pas que ce soit comme ça, mais on voit bien autour de tous les problèmes, par exemple des constructions du socle commun, à quel point il est difficile de se mettre d'accord sur un objectif qui soit pas l'excellence et qui permette de valoriser toutes les réussites de tous les élèves qui arrivent à un niveau convenable qui aujourd'hui, qui pourront s'insérer dans la société, pas dans les élites, et de toute façon, on n'en a pas besoin, parce que par définition, le nombre de places est très limité. Tout cela est très faiblement valorisé. C'est vrai que il est logique qu'un certain nombre d'acteurs puissent être attirés par ces politiques parce que elles donnent des objectifs beaucoup plus clairs qui sont tout à fait cohérents avec le modèle de l'excellence français qui font venir d'autres ressources, d'autres éléments, etc. Mais je ne voulais par là nécessairement du tout dévaloriser l'action d'autres professionnels qui est malheureusement beaucoup moins visible, visible sur le terrain. Alors, dans la dernière partie de votre présentation, pardon, je vais... Oui, alors, je pense que c'est une vraie question. Alors, je ne sais pas, vous enseignez en école primaire ou vous parlez du collège?
En école primaire,
école. Oui, parce qu'en école primaire, cela me paraît effectivement beaucoup plus réaliste. C'est quelque chose que j'ai observé, non seulement en centre-ville comme Paris, mais même dans des villes de la banlieue, mais proches de Paris, qui connaissent ces phénomènes de gentrification des centres-villes par les classes moyennes et supérieures, notamment du secteur public, mais pas seulement. Et effectivement, pour ces catégories-là, on voit bien que l'école primaire peut constituer un lieu de mixité qui garde encore une assez forte crédibilité, et que pour autant qu'il ait une équipe qui arrive à faire investir ses parents, il peut y avoir effectivement une très bonne dynamique qui se met en place, que j'ai observée dans un certain nombre des quartiers, c'est une dynamique vertueuse, etc. Au collège, c'est déjà plus difficile parce que les enjeux pour les parents changent de nature. Autant les classes moyennes et supérieures, d'une certaine façon, l'école primaire va de soi. Il y a pas beaucoup de parents qui soient très soucieux que leurs enfants vont être en gros échec, sauf s'ils sont confrontés à des situations de forte violence ou vraiment à des phénomènes massifs d'échecs scolaires. Mais sinon, les parents se disent, bon, ils vont faire avec, c'est peut-être pas la meilleure école de France, mais ça ira. Au collège, déjà, ce que j'ai pu observer dans mes enquêtes, puisque moi, j'ai surtout travaillé à l'entrée en collège, c'est que déjà, il y a beaucoup plus de réticences. Quand un certain nombre de conditions sont réunies, que j'ai étudiées en banlieue parisienne, parfois, il y a ces stratégies vertueuses que j'ai décrites, une bonne colonisation, c'est-à-dire des parents qui emmènent des ressources, qui se battent pour l'école, qui s'investissent à côté des équipes enseignantes. Malheureusement, parfois, ce que j'ai observé, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est ces formes de colonisation plus visibles dès lors qu'il y a des classes de niveau. Ça, c'est la forme la plus visible dans laquelle il y a des parcours particuliers, une sorte d'appropriation privée d'un bien public. Mais il y a des choses plus subtiles, c'est-à-dire que ses parents sont très présents sur l'école, donc l'attention des enseignants se concentre beaucoup sur ses enfants. Il peut y avoir des tensions sur le fait, est-ce qu'on donne de l'argent pour l'éducation prioritaire, mais quand même, on a fait le sacrifice de laisser nos enfants ici. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas un voyage X, etc. Donc... c'est pas toujours vertueux ce qui se passe, c'est ce que je vais dire. Pour autant, et c'est quelque chose dont je discute beaucoup, souvent d'ailleurs avec les journalistes, parce que les journalistes, ils sont fascinés par les enfants des classes moyennes qui quittent les écoles du quartier. Mais je leur dis toujours, mais vous n'êtes pas du tout fascinés par tous ceux qui vont vers le privé et par tous ceux qui, par les stratégies résidentielles, il y a longtemps qu'ils ne se posent plus le problème de la cohabitation avec les classes populaires. Donc, en fait... je pense que même si cette cohabitation elle est problématique, etc., elle est quand même plus vertueuse et elle est porteuse d'autres choses quand même que les stratégies plus radicales des fuites vers le privé ou les stratégies des choix résidentiels. Simplement, il ne faut pas se voiler le regard par rapport au fait que ces stratégies ne sont pas totalement vertueuses et qu'elles peuvent avoir des effets pervers. Et que parfois, sans même s'en rendre compte, entre des parents qui s'investissent pour l'école et qui s'investissent pour leur enfant, qui tirent des petits profits pour leur enfant, etc., il y a des choses un peu compliquées et que seule une analyse très fine des dynamiques à l'intérieur de l'établissement permet de regarder de près pour voir si on n'arrive pas quand même à des situations un peu d'apartheid à l'intérieur de l'établissement que j'ai parfois pu observer. Mais... en France, on dénonce beaucoup ces parents qui quittent les écoles du quartier, etc., qui sont souvent des fractions des classes moyennes du secteur public, mais alors que les stratégies plus puissantes, qui sont celles d'aller vers le privé ou de résider dans des centres très favorisés, elles sont invisibles d'une certaine façon. On les dénonce assez peu, alors qu'elles sont mille fois plus puissantes et porteuses de ségrégation dans la société. Donc, je pense que simplement... l'essence de mon travail, c'est d'essayer d'être extrêmement sensible à la complexité des situations, pour voir des situations qui peuvent être porteuses de choses très positives et qu'à un moment donné peuvent effectivement engendrer des effets pervers. Mais effectivement, heureusement en France, on a quand même des centres-villes qui restent assez mélangés et dans lesquels il est possible de construire des projets positifs de mixité, sous certaines conditions.
Une dernière question.
Vous avez terminé, je crois, votre intervention en affirmant ou en posant la nécessité de repenser, je crois, une action territoriale de masse. Hein, il me semble que c'est ce que vous avez dit. Alors, et puis, dans le tout début de votre intervention, vous avez à un moment donné parlé d'une approche attachée aux individus qui est celle des Pays-Bas. Et alors, j'avais envie de vous poser la question, est-ce qu'en France, puisqu'on vous avait parlé aussi d'efficacité à un moment donné, hein, par exemple en Angleterre, enfin, la question de l'efficacité des politiques menées est quand même légitime. Est-ce que la politique, l'approche politique menée éducative aux Pays-Bas a eu des effets, a été efficace, cette conception-là ? Et est-ce qu'on pourrait concevoir en France un autre type d'approche qui pourrait être, par exemple, celle où on attache, où elle est attachée directement aux individus, c'est-à-dire en attribuant, en fonction de la composition, par exemple, sociale d'un établissement, un certain nombre de moyens, et non plus en ciblant sur du territoire?
Moi, je pense, globalement, pour la situation aux Pays-Bas, c'est compliqué à étudier parce que d'autres facteurs qui fonctionnent dans le système interfèrent avec cette politique et rendent le système des Pays-Bas, globalement, pas très efficace et surtout très inéquitable parce que, par exemple, la ségrégation entre les écoles est extrêmement forte et très favorisée par le fait qu'il y a toujours eu un libre choix de l'école. Donc, ça interfère avec ces politiques de discrimination. Moi, je pense que dans un certain nombre de pays où on a eu une réflexion sur ces politiques, on s'est aperçu, pour revenir aussi au débat qu'on avait tout à l'heure, que les politiques territoriales, stricto sensu, sont des politiques qui peuvent s'avérer assez peu efficaces, dans le sens où on s'adresse à des masses dans lesquelles on ne distingue pas nécessairement les niveaux de difficultés, etc., avec le risque toujours présent, dans toutes les politiques sociales, on retrouve ces phénomènes, c'est que c'est souvent les franges les moins en difficulté qui profitent le plus. Et les politiques individuelles, le problème, c'est qu'elles concernent un petit nombre, que souvent elles retirent ces élèves ou ces individus des territoires et donc renforcent la pauvreté de ces territoires. Donc on a développé ce qu'on appelle des politiques de traiter les individus dans les territoires. Donc moi je pense qu'effectivement la meilleure piste c'est d'être attentif aux individus dans les territoires au sens de s'assurer que les politiques sont bien orientées, elles ne sont pas nécessairement individualistes mais elles touchent bien les individus qui ont des difficultés. Parce que bon, moi j'ai travaillé dans un certain nombre aussi d'établissements ZEP dans lesquels parfois les moyens ZEP étaient utilisés pour créer la classe des niveaux. Donc c'était les bons élèves qui profitaient des ressources. Il n'y avait aucun contrôle sur la façon dont les ressources étaient utilisées. Donc il faut bien s'assurer que la cible est bien concernée et après qu'il y a des vertus, à des formes d'individualisation. Effectivement, une politique des territoires qui s'est simplement... Et puis le problème des politiques territoriales que j'évoquais aussi, c'est le problème de la dilution. C'est-à-dire si on se met à faire de l'égalitarisme territorial et qu'on se dit il faut que toutes les classes, il y ait moins de 2 élèves par classe, et si on n'est pas capable de dire il y a des classes dans lesquelles il y a plus de problèmes et là il faut vraiment que la réduction des effectifs soit très forte et d'autres classes on peut les charger, etc. Je pense qu'il faut faire des politiques territoriales intelligentes, ce qui veut dire que ce sont des politiques qui sont très focalisées sur les effets sur les individus que l'on mesure et que parfois on peut se dire pour certains individus c'est peut-être bien de les traiter individuellement, dans certains cas il faut agir comme ceci, etc. Donc je pense que on peut aujourd'hui apprendre des défauts avérés des politiques territoriales pures et des certains problèmes posés par la façon dont la politique ZEP a été étendue sur l'ensemble du territoire sans contrôle, etc., sans pour pour autant tomber dans le versant des sauvons les quelques méritants des territoires qu'on va les extraire, parce que cette politique, elle ne peut qu'aggraver la situation dans les territoires. Mais pour moi, un regard sur les individus est tout à fait nécessaire pour voir effectivement quelles sont les actions qui marchent auprès de tel type de public. Et je suis, ayant toujours pratiqué une recherche attentive aux dynamiques locales, situation variable dans le territoire. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai essayé de dire, bon, mes recherches qui ont porté, surtout ces dernières années en région parisienne, ne s'appliquent peut-être pas partout, parce que les situations territoriales sont très diverses. Allons regarder le type de questions que ça pose. Par exemple, je ne suis pas du tout sûr que dans des territoires où il y a une très forte ségrégation sociale, mais qui n'est pas avec une forte présence d'enfants d'immigrés, ça nécessite le même traitement que dans d'autres zones, etc. J'ai travaillé au début de mes travaux de recherche dans des zones rurales. Je suis convaincue que la nature des problèmes n'est pas tout à fait la même que dans des zones urbaines, qu'on ne peut pas agir de la même façon, etc. Donc oui, pour, je dirais, pour une politique de traiter les individus dans les lieux.
Je voudrais revenir sur votre conclusion. Effectivement, on repensait l'action territoriale de masse. Il me semble, mais je dois me tromper, il me semble que justement en 2006, il y a eu une volonté politique de repenser cette politique territoriale de masse, et il me semble que l'architecture globale de l'éducation prioritaire en mission réussite et réussite scolaire a voulu justement cette réorientation de moyens vers des individus dans les établissements plutôt que d'une autre façon. Et donc, il y a eu effectivement réduction du nombre d'élèves par division, mais c'est une réduction moyenne globalement dans les établissements. Et je veux dire, tous les gens qui sont là et qui travaillent en éducation prioritaire, on sait bien que c'est pas la moyenne 24 ou la moyenne 26. C'est aussi sur le choix des chefs d'établissement d'examiner la composition des structures et de mettre en face par rapport aux élèves des moyens justement pour suivre ces élèves-là. La composition des équipes, je veux dire, l'architecture globale de l'éducation prioritaire a été revue de manière à ce que les moyens, me semble-t-il, aillent aux élèves qui en ont le plus besoin dans les classes et dans les établissements. Mais peut-être que c'est mon point de vue, mais il y a d'autres... Enfin, je n'ai pas un point de vue aussi pessimiste globalement que celui que votre œil global d'observateur, de sociologue a pu donner. Voilà.
Non, mais effectivement, comme je le disais au début, je crois qu'il faut regarder attentivement ce qui s'est passé depuis justement la réorganisation de l'éducation prioritaire. Je reste quand même prudente parce que mes travaux de recherche m'ont beaucoup habituée à voir l'écart entre les instructions officielles et ce qui se passe sur le terrain, et que effectivement, plus on va vers des politiques dans lesquelles on suppose que les chefs d'établissement vont avoir donc cette marge d'action pour récomposer les divisions, par exemple en fonction des problèmes des élèves, plus ça suppose aussi qu'on ait des acteurs sur le terrain qui soient capables de faire ce type de choses. Et que bon, j'ai aussi beaucoup analysé le travail des chefs d'établissement, leur formation, etc., pour savoir qu'on n'a pas toujours encore aujourd'hui les responsables d'établissement dont on aurait besoin dans l'ensemble, et puis en particulier dans les zones d'éducation prioritaire, pour avoir les personnes qui soient capables de mettre en place ces politiques. Quand cette conjonction existe, on a sans doute aujourd'hui une plus grande souplesse des fonctionnements qui permet d'utiliser les moyens de façon intelligente, et j'en ai vu un certain nombre de cas où ça a pu avoir des effets tout à fait intéressants, mais ça laisse reposer sur des personnes quelque chose qui supposerait que ces personnes aient une formation, une capacité à prendre en compte ces problèmes, etc., et ne les traitent pas de façon gestionnaire. Or, mes travaux, malheureusement, que ce soit sur les administrations territoriales ou sur les chefs d'établissement, montrent que la prédominance des logiques gestionnaires est encore très forte. Et de temps en temps, on a quelques acteurs qui ont une volonté politique forte, qui ont par ailleurs une trajectoire pédagogique d'innovation, qui ont des objectifs très clairs et qui arrivent à mettre ces choses en place, mais que ce n'est pas malheureusement ce qui prédomine le plus aujourd'hui. Donc, à titre personnel, je suis plutôt favorable à ce type de politique parce que je pense qu'on est dans des modèles où on peut pas gouverner par la contrainte seulement et qu'il faut se reposer sur la mobilisation des acteurs. Ça suppose qu'on se donne les moyens de se doter des acteurs de grande qualité, notamment là où il y a le plus de difficultés. Je ne pense pas qu'on se soit encore aujourd'hui doté de tous les outils pour que ce soit le cas.